kujiba manyane onu uji ufila manyoka bwa bubi bonsu bwa jinyangila inabanza bu muntu bwenda. Mbwena kwamba ne, jinyangila inabanza anyi mwana wabitenda wangfunda mwishi mwajiku ni mwanda mkulu kujimwena onu chijibwenza vi. Jenda ni ndumba njika njikibwa. Mbya momu mwa ne jenzela makuta anyi mwanzu bwa kwende ni mwana wabitenda anyi inabanza. Mwena mujimu wa onu anyi wa monisko kena bwa kujufila kubwenza vi ne mwana wabitenda anyi inabanza bwa kumupesha makuta anyi mujimuto. Mwena mujimu wa monisko ne wa onu munu mujitunga ja Kongo mbabe nga bwenza vi bwa jinyangila inabanza bumuntu bwenda. Echi chijijimanisha ja onu.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Je le disais en sommaire de ce magazine, on va parler du comment créer son entreprise en ligne. Et nous avons pour invité Kanik Pascal, le responsable du School App, une start-up de Dutech. Il est avec nous dans ses studios. Je rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, composez les 081-890-63-94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net ou à l'adresse Facebook au Capi Service. De nos jours, on parle de plus en plus des entreprises numériques ou entreprises en ligne. Cependant, pour créer une entreprise de ce genre, il existe deux options à choisir. Soit vous vous chargez de la création, soit vous déléguez la création à un prestataire en ligne. Alors, quelles sont les modalités à remplir pour créer une entreprise en ligne et quels en sont les avantages? Nous allons découvrir tout cela avec notre invité, Kanik Pascal. Voilà. J'avais dit merci d'avoir répondu à notre invitation. On parle d'une entreprise en ligne, généralement en anglais c'est le start-up. Une start-up, c'est bien ça?
Oui,
c'est... Alors, expliquez-nous un peu c'est quoi une start-up.
Exact, merci beaucoup monsieur Marcel. Tout d'abord, une start-up c'est une entreprise du numérique,
oui,
qui a son activité basée essentiellement sur internet. Et donc ici au Congo c'est pas encore très connu. C'est une nouvelle approche qui est en train d'être intégrée dans notre système économique. Donc une start-up, comme on dit, une entreprise du numérique.
Oui.
Et déjà, je partirai de manière aussi claire à dire que c'est différent d'une PME. Parce que souvent, nous confondons start-up et PME. Donc une start-up, ce n'est pas une petite ou moyenne entreprise, mais c'est une jeune entreprise en création,
oui,
à la recherche des modèles économiques, mais qui a un très fort potentiel de croissance. C'est ça la différence. À une PME, qui est une entreprise qui a déjà un modèle économique, qui n'a pas un fort potentiel de croissance ou qui n'est pas scalable, comme on l'a dit dans le langage business. Donc, c'est un peu ça la différence.
Mais comment on arrive à créer une start-up? Ça se fait comment?
Tout part d'une idée,
oui,
qu'il faut avoir. Et l'idée doit être inspirée essentiellement sur un problème,
oui,
identifié dans le marché. Là aussi, je vais insister pour que tout problème ne doit pas nécessairement être une idée d'entreprise.
Oui.
Parce qu'un problème doit avoir un besoin réel, donc ça doit avoir une demande. Donc il y a des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin d'une solution qui peut être utilisée du point de vue numérique, qui peut être résolue par les numériques. Donc, c'est comme ça, on parle d'une idée, on,
oui,
identifie les problèmes, qui c'est un besoin que vous devez résoudre sur le marché. Et dès là, vous allez entamer des procédures. Une procédure d'abord de la recherche de modèles économiques,
oui,
de départ, et qui ne sera pas fixe, qui doit être modifié au fur et à mesure ou amélioré. Et dès que vous avez un modèle économique de départ, vous développez la solution, le premier produit. Et donc, vous avez les produits, un prototype ou un produit de départ. Et partant de ces produits, vous allez maintenant commencer à monter la structure du point de vue juridique et tout ce qui suit dans les procédures de création d'entreprise normale.
Vous avez parlé pour une start-up, il faut partir de modèle économique. Mais à quel moment on peut se dire ça, c'est ce modèle, c'est bon pour une entreprise en ligne ou si vous voulez une start-up?
Il faut beaucoup d'essais, beaucoup, oui, d'essais, beaucoup de tests. C'est ça la difficulté ici au Congo, peut-être comme le concept n'est pas très bien compris.
Oui.
Parfois on est trop exigeant avec le start-up. On croit qu'ils doivent être, elles doivent réussir dès le départ. Et c'est faux. Donc il faut connaître des échecs, il faut connaître beaucoup il faut avoir aussi du caractère, il faut avoir un mental assez fort, parce que vous devez passer par les tests. Souvent, c'est aussi l'innovation. L'innovation caractérise en fait une start-up. Si vous n'innovez pas, c'est difficile qu'on vous qualifie de start-up. L'innovation, c'est pas juste d'avoir un produit nouveau. Ça peut être dans votre business, dans votre modèle économique, votre manière de facturer, votre manière de rendre service, oui, votre manière de vendre. C'est aussi l'innovation. Et donc, si vous avez un produit avec un caractère innovant, et donc vous avez un modèle économique et vous allez challenger, vous allez, oui, commencer à améliorer jusqu'à trouver le modèle qui marche avec le marché et qui est en accord avec le marché. Parce que ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas copier ce qui existe.
Oui.
Parce que souvent, ce que nous avons comme start-up sont à caractère dans d'autres pays. Ici, il n'y en a presque pas encore. Et donc, si vous copiez aussi un modèle d'un pays étranger, par exemple, les réalités d'ici, du Congo, c'est pas le même. Par exemple, nous ne sommes pas bancarisés, nous n'avons pas, la bancarisation est vraiment pas encore, n'a pas atteint le niveau de maturité. Les marchés sont compliqués, les études du marché sont difficiles à faire et tout ça. Donc, il faut essayer. Et petit à petit, vous corrigez, vous améliorez jusqu'à trouver un modèle fiable, fixe et stable.
Vous allez en profiter pour parler de votre expérience, hein, parce que vous-même, vous êtes responsable de Schoolab, qui est start-up d'EduTech, c'est-à-dire sur l'enseignement. Vous allez en parler. Mais lorsqu'on a maintenant repéré les modèles économiques pour lesquels on aimerait créer une entreprise en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite?
Dès que vous avez les modèles économiques, moi, je conseille toujours aux gens de commencer. Il faut commencer, il faut directement aller sur le marché. Il faut rencontrer les premiers clients, il faut proposer votre produit et commencer avec un marché limité, faire des essais, des tests.
Mais quand vous dites aller vers les clients en ligne, on va vers les clients comment?
Oui, là c'est l'approche que vous allez adopter, parce que dans le processus de création, vous devez définir. Il y a beaucoup de choses dans le business model.
Oui.
Il y a par exemple, c'est difficile de dire ça en français, le framework, par exemple les AARR, il y a l'acquisition, l'activation, le référencement, le revenu, et puis donc tout ça, vous devez d'abord étudier. Il faut passer souvent par l'incubation, c'est important.
Oui.
Ici, on a quelques incubateurs qui sont en train de mettre en place des structures. Il y a Ingenious City, il y a par exemple Kinshasa Digital Week.
Oui.
Passer par un incubateur, c'est important parce qu'ils vont vous apprendre tout ça. C'est toute une procédure, tout un processus rigoureux qu'il faut comprendre. Il faut comprendre un peu de business. Donc, vous faites l'étude, vous dites, OK, l'approche que je prends, c'est par exemple de voir directement les clients en face en face.
Oui.
Ça, c'est votre approche d'acquisition. Ou soit j'organise des conférences, ou soit j'ai fait des publicités en ligne, soit j'ai fait du référencement sur Internet, j'ai fait des communications sur les réseaux sociaux. C'est une approche pour acquérir votre clientèle. Et donc, chacun doit choisir comment il ira vers les clients en bâtissant son business model, son modèle économique. C'est dans les modèles économiques qu'on définit tous ces processus.
Alors parlons de votre propre expérience pour aider les nombreux auditeurs qui nous suivent à comprendre. Et comment vous êtes arrivé à créer votre application qu'on appelle Schoolab?
Oui, tout d'abord, c'est de par mon expérience. J'ai travaillé sur Vodacom durant 4 ans. J'étais dans les analyses décisionnelles. Donc, j'ai quitté Vodacom. J'ai démissionné pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un choix d'abord que j'ai fait parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin pressant sur le marché. Et donc, je ne pouvais plus...
La première étape, c'était déjà... C'est là où vous avez senti un besoin.
Un besoin. Dans mon travail,
dans
déjà,
votre travail, tout à fait,
j'avais besoin des analyses. Voilà. Il n'y avait pas de données fiables qui remontaient des écoles.
Oui.
Il n'y avait pas un système de gestion de l'information scolaire. Il n'y en avait pas un système intégré. Donc, il fallait aller chercher de la paperasse, dans la paperasse où les données sont gardées dans le ministère, dans l'inspection, ainsi de suite. Et il y avait trop de risques et de pertes des données, des informations scolaires. Et si ça prenait fait, par exemple, aujourd'hui, nos entrepôts où on garde toutes les archives de scolaires, nous allons tout perdre.
Oui.
Et donc, de ces besoins, je me suis dit, mais j'ai fait mathématiques informatiques à l'Unikin. Et donc, je me suis dit, je suis allé à l'université aussi pour résoudre ce genre de problèmes. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur comment nous pouvons aider notre nation à avoir un système de gestion de l'information scolaire. Où, à partir de son bureau, chaque décideur peut juste en un clic avoir toutes les statistiques qu'il recherche. Et c'est comme ça que l'idée de Schoolab a commencé. Et donc j'ai associé d'autres personnes, notamment un prêtre, l'abbé Guy José Leta, parce qu'il était déjà proche des écoles catholiques. Et donc, je lui ai dit, voilà, je pense qu'on peut résoudre tel problème. Et nous avons abordé le coordinateur national des écoles catholiques, qui avait effectivement ce besoin de voir intégrer dans une application en ligne toutes les informations scolaires de son réseau éducationnel. Et donc, nous avons commencé avec lui, nous avons réfléchi sur comment mettre la plateforme en place.
Et quand vous parlez des informations scolaires, lesquelles par exemple?
Les données statistiques, par exemple, tout ce que vous avez dans l'annuaire de l'EPSP, vous avez les taux, par exemple, de parité, vous avez ça, les élèves par âge, vous avez toutes les statistiques, en fait, l'agrégé, comme on l'a dit. Et il y a ça, mais nous sommes aussi en train d'aller vers un système maintenant où chaque élève, avec un identifiant SchoolApp, peut retrouver toutes ces informations ou tous ces archives après avoir quitté l'école même dans 10-20 ans. Vous pouvez être à l'étranger, vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre école qui a presque déjà souvent qui perd les données, les informations. Mais en direct ou en ligne, vous accédez dans ce coup-là, vous mettez votre identifiant, vous vous connectez, vous avez toutes les informations de votre parcours scolaire, peu importe l'endroit où vous vous trouvez.
Et mais maintenant, pour créer l'application, ça se passe comment? Vous créez l'application vous-même ou vous cherchez un prestataire en ligne?
Non, il y a une équipe qu'il faut monter. Et c'est difficile de faire tout seul. Et c'est là aussi le problème, c'est qu'une application, ça ne peut pas faire une start-up. Une start-up, ce n'est pas un logiciel. C'est vraiment une différence qu'il faut aussi fixer. Ici, peut-être que chez nous, souvent les gens pensent que dès que tu sais faire une application, tu peux être entrepreneur. Non, être entrepreneur, c'est pas d'abord monter des applications. C'est d'abord savoir transformer un problème à une idée d'entreprise. C'est ça le plus important. Et donc, savoir quelle approche adopter pour que ces problèmes soient résolus. Donc, une application est montée par une équipe. Dans notre équipe, nous avons des développeurs. J'ai des jeunes développeurs, des DISIPA généralement, qui sont très bons. Ils font le code, ils créent le système informatique. Il y a des commerciaux qui font l'approche du marché. Et j'ai des marketeurs qui s'occupent de la communication, du visuel et tout ça. Donc c'est toute une équipe, c'est vraiment une jeune entreprise qui commence avec des départements. Et comme ce n'est pas à vocation à rester une petite entreprise, mais une grande entreprise, il y a des normes qu'il faut respecter. D'où il est important d'entrer dans des réseaux d'accélérateurs. Et, par exemple, nous avons eu la chance d'accéder dans un réseau SIFSTAR qui est international, donc qui nous aide à améliorer tous les jours notre modèle et à être dans un standard international pour être compétitif au niveau international. Et aujourd'hui, je suis fier parce que nous sommes dans les top 3 des applications EdTech dans ces réseaux SIFSTAR qui réunissent 75 pays du monde.
Ah ben, mais maintenant, pour parler de la protection juridique, comment ça se passe pour une start-up? Ça se passe comment?
Il faut un avocat et je conseille aussi aux gens de ne pas tout faire de manière un peu aléatoire. Il faut des experts. Même votre modèle économique, il faut des experts. Il faut trouver des experts comptables. Il faut trouver des experts en développement d'affaires. Un avocat est important parce qu'il vous aide à éviter beaucoup de risques, des conseils juridiques. Il fait toute la création, toute la procédure de création d'entreprise. Et puis à la fin, vous avez une entreprise reconnue, vous quittez l'informel. C'est important parce que il faut respecter aussi la loi.
Voilà, Kadi Pascal, vous restez avec nous. On va poursuivre avec vous. C'est une émission interactive avec deux auditeurs qui appellent. Il y a déjà Gaston qui nous appelle de Kinshasa et Archange qui est à Kikwit. Et je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sous la fréquence de la paix, vous suivez les magazines Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de comment créer son entreprise en ligne ou comment créer une entreprise en ligne. Vous l'invitez l'a dit. C'est généralement en anglais, on appelle cela start-up. Donc, si vous êtes start-up, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez composer les 081-890-6094 ou nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net.
Oh, Mario, tout le monde
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Gaston nous appelle de Kinshasa. Gaston, vous êtes en ligne à Kinshasa. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Marcel.
On vous écoute, Gaston. Quelle est votre question?
Bon, ma première question, c'est concernant les produits que venait de présenter récemment l'UDP. J'ai apparemment comme si c'est mon produit, hein. Est-ce que c'est son produit réellement? Parce que comment il a eu à protéger cette invention, à mon avis, qui est la sienne? Parce qu'apparemment, ça s'apparente avec un produit que, comme je suis juriste, il y a un Camerounais qui est venu dans l'intention de créer une entreprise ici, parce qu'il voulait proposer un produit dans cet aspect. En soi, son produit consistait à ce que les parents d'élèves, en partenariat avec les écoles, puissent être au courant à travers ce système-là de l'entrée, disons, de l'arrivée des élèves et la sortie des élèves à l'école à travers un SMS. Il y a aussi des communiqués importants. On pouvait, à travers ce système-là, envoyer des messages qui pouvaient atteindre ses parents à travers ce système-là. C'était pour, en soi, combattre les absences injustifiées, mais aussi l'école boissonnière que nous voyons actuellement ce moment. Mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'il a procédé à la protection de cette invention? Et si c'est pas le cas, si ça arrivait demain qu'une autre entreprise se présente pour dire que c'est où ça c'est évoluer, proposer ce même produit. Est-ce qu'il a le droit de défendre ces produits comme son invention ou ça existe déjà ailleurs, lui il est venu juste l'appliquer. Et puis au-delà de cela, j'allais vous dire que en réalité, la plupart des entreprises, ces 10 entreprises sur Internet, n'ont pas une existence légale. Il faut vraiment faire attention du point de vue engagement qu'on peut avoir avec de telles structures de fait. Qui n'arrange pas les choses. Mais je voulais aussi avoir une idée, qu'est-ce qu'on appelle vraiment une entreprise en ligne? Une entreprise en ligne, c'est une entreprise, comme dans le cas de ceux qui proposent des services en ligne, et par exemple, les marchandises qu'on peut vendre physiquement, mais vous les proposez lorsqu'il y a livraison, vous les faites physiquement, ou c'est juste une entreprise qui vous propose des services aussi à caractère numérique, à caractère... Parce que je sais qu'il y a des entreprises qui vous disent que non, nous vendons tel chose, mais lorsque vous vous engagez, que vous virez l'argent, par exemple, vous payez, ils vous envoient des choses. C'est pas une entreprise qui est en ligne, mais en soi, qui est une entreprise qui existe, mais qui utilise ce moyen-là de marketing pour avoir des clients et puis négocier. Bon, mais donc, on nous explique très clairement qu'est-ce qu'on entend par une entreprise en ligne. C'est pourquoi ces entreprises en ligne exercent dans l'illégalité absolue. On peut voir aussi d'autres entreprises étrangères en ligne, mais qui posent des actes ici sur le territoire congolais, qui sont soumis à aucun impôt, à aucune condition. Je ne sais pas s'il y a des éclaircissements à nous donner là-dessus.
Voilà, merci Gaston d'avoir appelé de Kinshasa. Archange, vous êtes à Kikwit. Bonjour Archange.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à votre
invité. On vous écoute Archange, quelle est votre question?
Oui. Bon, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que s'investir dans ces domaines d'entrepreneuriat, c'est tout d'abord d'accepter de prendre des risques. Parce qu'on constaterait que beaucoup de gens ne gagnent pas simplement parce qu'ils ont peur de perdre. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui nécessite à ce qu'on soit fort et qu'on s'engage à échouer, ou pas nécessairement échouer, réussir, mais sans oublier que l'échec peut partie intégrante de la réussite. Mais mon problème, c'est à quel niveau? Je ne sais pas, parce que votre invité est en train de nous expliquer qui a lieu avec la création des entreprises en ligne.
Oui.
Mais ce que nous constatons souvent, lorsqu'on parle des entreprises en ligne, c'est comme des plateformes qui sont là pour mettre juste en relation les acheteurs et le vendeur. Et lorsqu'on parle des entreprises en ligne, est-ce qu'il y a un cadre juridique dans notre pays qui régule ce domaine, et s'il faut s'y lancer, quels sont les prérequis nécessaires qu'on doit avoir pour réussir? S'il y a déjà eu à réussir ou à sceller dans ce domaine, s'il peut nous expliquer comment on doit s'y mettre et s'il faut nécessairement associer à cet engagement des informaticiens de formation, ou bien on peut, comme moi par exemple, je suis un agronome de formation. Je peux dire non, à partir de mon ordinateur à la maison avec une connexion Internet, je peux me lancer à la création d'une entreprise. Ou bien nécessairement, il faudrait que je fasse appel à des gens qui sont entrés en informatique, des informaticiens, entre guillemets, pour qu'ils m'accompagnent dans ce sens-là. Et pour revenir à ce que j'ai dit, quelles sont les normes à remplir en termes juridiques ou sociaux pour y arriver. Et la seconde question, c'est de demander à votre invité s'il peut établir le lien qui existe entre la crypto-monnaie et les start-up, donc les entreprises en ligne. Le lien qui existe entre ces deux notions.
Merci Archange d'avoir appelé de Kikwita. Lubumbashi, Clovis est en ligne. Bonjour Clovis.
Bonjour Marcel Mombo.
On vous écoute Clovis, quelle est votre question?
Oui, j'avais quelques questions à poser à l'invité. Nous sommes dans un pays où l'économie numérique est un peu sous-développée. J'ai juste lui demander comment trouver un modèle économique dans notre pays. Et puis, avec son entreprise en ligne, comment lui affronte-t-il le système fiscal à cette est-ce qu'il paie les impôts ou bien il ne paie pas. Et aussi, ce que je voulais demander, c'est quelle sorte d'entreprise, l'entreprise de prestation de services qu'on peut créer sur le numérique ou bien l'entreprise de production. Moi aussi, j'ai un projet auquel que j'aime aussi mettre sur l'économie numérique, mais mes produits cibles, parfois ne s'intéressent pas sur des produits qui ne peuvent jamais s'intéresser à l'économie numérique. Ou bien à l'Internet, est-ce que ce serait vraiment utile de les mettre sur le numérique? Ça, c'est les questions que
je voulais justement poser à l'invité. Merci, Clovis. D'avoir fait de Lubumbashi, on revient à notre invité, Kanik Pascal, qui est responsable de Schoolup, une start-up d'EduTech, c'est-à-dire qui concerne l'éducation. Vous avez suivi, il a parlé de la gestion des informations, des ouvrages scolaires, mais vous avez suivi. Il y a Gaston qui a dit, par exemple, comment vous faites pour une protection juridique, hein, parce qu'il y a d'autres personnes également qui peuvent monter un tel projet et le mettre en ligne. Et il a également parlé, il a dit que la plupart d'entreprises numériques, en tout cas, ont un problème d'existence légale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, il n'y a pas déjà de protection en termes d'invention dans ce domaine. Et donc on ne fait pas, il n'y a pas une invention juridiquement. On ne peut pas dire j'ai un brevet ou bien quelqu'un d'autre a un brevet parce qu'il a créé quelque chose en ligne. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être déposer la marque des services. Oui. Ça c'est selon les conseils de juridique que j'ai reçus. Donc vous pouvez déposer votre marque des services, mais ça ne fait pas de vous, vous n'êtes pas exclusif parce que tout le monde peut faire la même chose. C'est pourquoi j'ai dit l'innovation. En fait, dans ces domaines, c'est pas souvent dans les produits. Mais c'est plutôt dans votre procédé, dans votre manière de soit d'aborder les marchés, soit de rendre service, soit d'aborder les clients, soit de facturer. C'est là où on trouve souvent l'innovation. Donc, c'est pas une invention. Donc, tout le monde peut le faire. Il y a des concurrents sur les marchés. Il y a des gens qui font la même chose ici comme en Afrique.
Ah, tout à fait. Il y a aussi la concurrence. Hein, oui, parce que là, il a parlé des Camerounais qui a mis ces mêmes genres de projets. Mais apparemment, vous êtes dans le même domaine de l'éducation, mais pas dans les mêmes projets.
Exactement.
Tel que j'ai compris, vous êtes souvent dans tout ce qui est lié à la gestion de la documentation scolaire et tout. Mais là, apparemment, il a parlé de SMS.
Oui. Ce sont des services additionnels que nous offrons également, mais ça ne fait pas, c'est pas notre corps produit.
Exactement.
Donc pour nous, c'est pas le plus important, mais nous avons ça aussi dans Schoolup. Donc Schoolup, déjà, c'est une plateforme qui intègre beaucoup d'applications, et donc c'est peut-être ce qui fait un peu notre force aussi. Hein. Nous avons presque tout ce que vous pouvez chercher pour une école, pour un groupe qui gère des écoles, pour des instances supérieures. On offre un peu à tout le monde et pas juste à une école. Donc notre clientèle cible, c'est pas des écoles. Donc c'est un peu ça. Du point de vue juridique, je pense qu'il est bon de toujours se créer comme une société des services aussi ici. Donc la légalisation est la même avec toutes les autres entreprises.
Alors vous avez suivi Archange qui a dit il faut accepter de prendre le risque, mais aussi le problème de d'identifier les modèles économiques pour lesquels on peut être intéressé pour créer une entreprise numérique. Puis il a posé la question de savoir s'il faut faire recours aux informaticiens. Lui par exemple, il est dans les domaines de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Archange?
Oui, ce que j'ai dit, c'est qu'il a dit, c'est vrai, il y a déjà un problème de rentabilité.
Oui.
Parce que souvent quand on crée une start-up, on ne s'attend pas à faire l'argent dans la première année, ni la deuxième année. Il faut vraiment être patient. Il faut savoir avoir un sens de sacrifice. parce que vous pouvez mettre beaucoup de temps avant de voir votre retour sur investissement. C'est pourquoi j'ai parlé, je disais, une start-up, ce n'est pas une PME où vous mettez 100 dollars, vous savez que vous aurez 130. Non, une start-up, au début, ça nécessite de l'investissement. C'est pourquoi on parle du modèle scalable. Au début, l'investissement est beaucoup plus important, mais plus ça décolle, dès que ça décolle, les coûts opérationnels deviennent moindres. Et vous avez le revenu qui est beaucoup plus important. Donc, c'est ça la différence dans la courbe économique. Donc, ça part avec un gros investissement de départ, mais à la fin, le revenu est beaucoup plus intéressant que les coûts que vous avez dans l'exploitation. C'est ça la différence. Le PME et la courbe est presque parallèle. Ça va avec les coûts, avec les revenus, ça monte au même moment. Et donc, au début, une start-up, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut s'oublier parfois. Il faut accepter de vraiment payer les prix. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui peut se lancer aussi. Et tout le monde ne doit pas se dire, oh, je vais entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat est différent, en fait, de la création de PME. Ça, c'est des nuances que nous devons commencer à insérer dans notre système de pensée. Donc, c'est pas une PME où vous devez mettre 100 dollars aujourd'hui, demain vous avez 130 ou bien vous avez 120. Vous pouvez investir jusqu'à 200, 300 000 dollars et vous n'avez toujours pas de revenus. Et il faut continuer. Parce que si vous croyez.
Donc, il faut croire à cela. Hein? Il faut croire à ce que vous faites déjà au départ.
Surtout la patience.
Mais la demander s'il faut recourir aux informaticiens.
Oui, par exemple, c'est ça que je voulais aussi insister. En fait, on confond souvent les entreprises en ligne au e-commerce.
Oui.
Non, les e-commerce, c'est juste une catégorie des entreprises en ligne. Par exemple, lui, il peut faire une entreprise en ligne qui est dans l'agritech. Donc, l'agriculture qui utilise la technologie de l'information. C'est en fait ça, c'est pas juste en ligne ou quoi. Il peut par exemple mettre en relation les agriculteurs, il peut par exemple faire des ventes entre agriculteurs et des fournisseurs et des acheteurs et tout ça. Donc il y a tout ça aujourd'hui au Ghana, partout en Afrique.
Mais faut se cocher quand même. Hein, quand
vous... Exactement, c'est pourquoi j'ai parlé de l'incubation au départ. Avant de se lancer, il faut absolument être incubé généralement. Parce qu'il faut apprendre des notions de base. Aujourd'hui, au Congo, on a ces problèmes, des notions de base de l'entrepreneuriat. C'est quoi d'abord le modèle économique? C'est pas juste une facturation, c'est beaucoup de paramètres derrière. D'abord, faut vraiment une formation même. Pas juste une formation, un accompagnement.
Oui, on revient vous, hein, parce que vous avez également cette question des Covid, c'est quelque chose, ça vaut la différence entre s'il y a un lien entre la monnaie virtuelle et l'entreprise en ligne, et puis il a demandé comment vous faites par rapport au système fiscal, et puis comment faire pour trouver des financements. Le temps pour nous d'accueillir les auditeurs qui sont en ligne, et la Madame Pacifique qui nous appelle de Kinshasa, Jérémy qui est à Lubumbashi, et Platini qui est à Bandaka. Madame Pacifique, vous appelez de Kinshasa, bonjour madame.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
Bonjour madame. Alors,
on vous écoute madame, votre question.
Oui. Alors, ma question est la suivante. Je suis en processus vers le guichet. Nous savons ce qui se passe après la création d'une entreprise. Est-ce que le monsieur, l'institut peut nous dire que la création chez eux, ils doivent être en contact avec le guichet unique où il y a leur système fait de sorte que les impôts et tout ce qu'on demande soit réglé justement à leur niveau, je ne sais pas. Et puis la deuxième question, comment vous faites, vous personnellement, comment vous faites pour gagner quelque chose dans ce que vous faites? La création chez vous exige un montant fixe. Moi, je veux savoir comment vous employez pour pouvoir recevoir un plus rien de la part de chaque créateur de l'entreprise en ligne. C'est ma question.
Voilà, merci Madame Pacifique d'avoir appelé Kinshasa. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jérémy. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi? Vous êtes en ligne depuis Lubumbashi? Apparemment, il y a quelques problèmes avec la ligne de Jérémy. On va aller en Bandaka pour retrouver Platini. Platini, vous nous appelez de Bandaka. Bonjour Platini.
Bonjour Marcel Mbombo. Bonjour les invités. Bonjour tout le monde. C'est Platini Mbombo depuis Bandaka.
On vous écoute Platini. Quelle est votre question?
Merci beaucoup, Mbala. Je salue l'invité, je vous salue aussi. Et je salue aussi le sujet du jour, c'est très important, parce que quand on parle la technologie de l'information, c'est aussi important. Alors moi, je voudrais quand même, avant que je pose ma petite question, je voudrais quand même ajouter, comme l'invité a dit, comment créer son entreprise en ligne. Parce que souvent, maintenant là, dans notre pays, nous avons aussi une entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle des MPSA, tout ça. C'est aussi des entreprises à ligne. Alors, comme l'invité a dit, hein, maintenant là, nous sommes au niveau de la technologie de l'information. Il faut créer. Hein, comment créer et quelles sont les conditions? Parce que moi, je voudrais avoir les conditions. S'il faut créer, vous allez créer où? Quelles sont les conditions hein, pour créer son entreprise privée en ligne vous-même? Je voudrais quand même avoir justement l'idée, les conditions hein, pour créer et sur quelles sont les modalités et on peut se séguer où son entreprise privée en ligne. Voilà, ce que je voudrais quand même dire, je vous remercie.
Merci Platini. Depuis Mandaka, on me fait signe que Jérémy c'est bon, hein, sa ligne ça marche. Maintenant Jérémy, depuis le Lubumbashi, bonjour Jérémy.
Oui, bonjour M. Nodi, bonjour également avec vous. Je salue vraiment grandement ce sujet. Hein. Mais nous sommes en train de remarquer quelque chose, surtout le monde au jour d'aujourd'hui est en train de prendre de l'envol et surtout de la vitesse, hein, dans les temps tout comme dans l'espace. Il se dégage quand même que la technologie va avec. Cependant, qu'il faut relever ici en fait, c'est celui de ne pas surtout versé dans la routine, hein, ce qu'on remarque au jour d'aujourd'hui. Et on remarque que la conception et la matérialisation d'une entreprise en ligne est un geste quand même à saluer. Mais le plus grand problème, c'est de promouvoir la paix, c'est-à-dire de promouvoir donc la pérennisation par un esprit managérial et aussi la mise en œuvre d'une marketing, c'est-à-dire de la mise en œuvre d'une opération marketing capable de ramener quand même les choses au plus haut point. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer hein, cette initiative d'entreprise en ligne parce que ça profite également à des milliers de Congolais ainsi que des gens à travers ça et là. Mais je voudrais juste poser un problème. Parce qu'il se pose quelque chose aujourd'hui. Vous allez voir, beaucoup d'entreprises naissent comme des champignons. Cependant, on n'essaye pas d'imprimer cet esprit-là, de l'esprit managérial, donc, et également aussi l'esprit marketing.
Oui.
On est en train de voir que beaucoup d'entreprises naissent, à un moment, elles disparaissent comme ça, et il n'y a rien de faire. Alors nous voudrions maintenant qu'ils puissent insérer aussi un système pour promouvoir, bien sûr, ces entreprises-là. Parce que nous savons, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie qui a évolué, nous osons croire que vraiment, il faut vraiment se positionner sur cette ligne. Parce qu'on ne peut pas rester en marge ou en arrière, parce qu'il faut se plier à ça. Mais question, le problème, c'est qu'il faut chercher à avoir une bonne philosophie. Comment est-ce qu'on peut amener à éclater l'entreprise pour qu'elle aille de l'avant. Mais on voit que tout le monde fait du copier-coller. Parce que l'autre a fait ceci, moi aussi je me lève le matin, je me pointe, je vois ceci. On a à voir aussi des exemples aujourd'hui des cabines qui pullulent tout au long des routes et tout ça. Tout le monde veut créer une cabine. Tout le monde veut faire ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un esprit? On nous a appris, je pense que dans marketing, qu'il faut néanmoins, lorsqu'on a des objectifs pareils, il faut toujours chercher à imprimer quelque chose, à amener des innovations, créer quelque chose de nouveau pour que les gens puissent, pour que vous puissiez vous attirer un peu de... Donc, une avancée considérable et significative. Je pense que c'est dans ce point-là que je voudrais juste intervenir pour voir. On ne doit pas rester dans la routine, mais on doit chercher à changer le fusil d'épaule et orienter les choses d'une autre manière, question un peu d'impulser les choses comme elles doivent être. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, Jérémy. Depuis le Lubumbashi, Kenny Pascal, vous avez suivi, hein, si on peut revenir d'abord à Clovis, hein, qui a cherché à savoir s'il y a un lien entre la monnaie virtuelle et puis l'entreprise en ligne. Hein.
Moi, j'ai déjà beaucoup de mal à dire entreprise en ligne. Mais je dirais plutôt entreprise du numérique.
Du numérique, voilà, c'est bon.
Beaucoup, je trouve ça plus adapté.
D'accord.
La crypto-monnaie, c'est une entreprise du numérique.
Oui.
Je crois que c'est ça.
Ah, d'accord.
C'est une des entreprises, une catégorie des entreprises du numérique, voilà.
Voilà, et alors, Madame Pacifique est revenue sur ça également, et puis il avait également Clovis par rapport au fisc. Hein. Comment vous faites par rapport au fisc et puis... Madame Pacifique a demandé, c'est vrai, vous avez dit, c'est pas facile, hein, il faut des sacrifices, mais au départ, ça exigeait un montant, un financement pour commencer à le faire. Et puis, comment vous faites quand même pour vous retrouver?
Oui, effectivement, le fisc, je crois que c'est la même législation, comme je l'ai dit. C'est une entreprise d'abord.
Oui.
Et ça aussi, ça doit être clair. C'est pas une entreprise en ligne. C'est une entreprise
oui.
avec une dénomination sociale. Une SARL ou quoi, c'est la même législation, c'est juste que la manière dont vous servez vos clients, ça peut passer par Internet ou autrement par SMS ou quoi. Donc c'est ça. Donc c'est ça la différence. La manière d'approcher les clients peut être souvent un support technologique. Donc c'est une entreprise normale. Mais effectivement, je ne sais pas, l'autre question c'était...
Mais toujours avec Madame Pacifique, comment vous faites pour vous retrouver hein? Parce que vous avez dit c'est différent d'une PME.
Oui.
Et comment vous faites quand même pour vous retrouver? Parce que, et puis au départ, vous faites quoi pour avoir un financement? Comment pour vous, hein, votre expérience, vous avez fait pour avoir un financement? Et avec les temps, comment vous faites quand même pour vous retrouver?
Exactement. Tout ça, maintenant, c'est un processus.
Oui.
Pourquoi j'ai parlé d'incubation?
Oui.
Pour moi, déjà au départ, j'étais employé. Donc j'ai investi presque tout ce que j'ai gagné. J'ai gagné sur Vodacom à la fin de mon contrat. Et donc, au départ, mais je ne voudrais pas dire qu'il faut un financement au départ. Tout ce qui compte au départ, c'est l'idée que vous avez et la conviction que vous avez.
Oui.
Et aussi, comment vous abordez votre projet. Donc, il faut d'abord un minimum de produits qui existent. Vous faites une preuve de même un petit marché et vous cherchez à montrer des métriques, comme on dit, des indicateurs
oui.
de performance. Vous dites par exemple, ok, vous trouvez des investisseurs, vous dites, voici mon idée, j'ai testé, j'ai fait ceci, et là j'ai besoin de temps pour pouvoir commencer à servir un plus grand marché ou bien à entrer réellement dans le marché. Donc c'est tout un processus, toute une formation qu'il faut suivre. Il ne faut pas se lancer comme ça, sans une formation, et vous allez faire une année peut-être, et puis après vous allez vous arrêter, c'est pas facile. Mais le financement, ça ne peut pas être une condition pour se lancer. Tout ce qui compte pour se lancer, c'est la conviction et votre idée de départ. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que souvent, on ne se lance pas pour l'argent dans l'entrepreneuriat. Tous ceux qui se lancent pour l'argent, ils s'arrêtent. L'entrepreneuriat, il faut se lancer pour résoudre un problème sérieux du marché dans lequel vous êtes en train de vivre, surtout.
De là, vous répondez également à Platini hein, qui cherche à savoir les conditions, comment on peut arriver à créer. D'abord, là, je cherche à savoir c'est quoi, si vous voulez bien rappeler, c'est quoi une entreprise du numérique, hein, comme,
oui.
comme vous souhaitez l'appeler. Et puis, quelles sont les conditions pour arriver à créer telle entreprise?
Comme je l'ai dit au départ, les conditions pour créer, il n'y en a pas, il faut avoir votre idée.
Oui.
Et vous, il faut identifier les problèmes,
oui.
les problèmes que vous voulez résoudre. Et vous formalisez un peu votre projet et vous vous lancez. Mais surtout, après, il faut réglementer l'entreprise, il faut aller au guichet unique. Et vous faites la création, vous trouvez quelques conseillers financiers, juristes, et qui vont vous conseiller sur la création, sur les taxes qu'il faut payer après, comment ça se passe. Mais c'est une entreprise comme toutes les autres entreprises, comme toutes les PME. Ce qui différencie une start-up ou une entreprise du numérique à une PME, c'est les caractères surtout innovants
oui.
qu'il faut trouver dans votre modèle économique. Je ne parle pas du produit innovant, du caractère innovant qu'il faut trouver dans les modèles économiques. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que ce n'est pas une entreprise qui est censée rester longtemps en train de faire un petit chiffre d'affaires. Si vous restez 3, 4, 5 ans en train de faire le même chiffre d'affaires, il y a un problème. Donc après, si vous passez de 1 000 $ de chiffre d'affaires à 2 000, il faut à un moment donné passer directement à 20 000, 100 000, 1 million. C'est ça des startups. C'est pourquoi c'est important pour notre pays aujourd'hui d'avoir une économie numérique. Un ministère, par exemple, de l'économie numérique.
Jérémy de Lubumbashi,
oui,
on en parlait tout à fait. Il a parlé, il faut promouvoir.
Il faut
hein,
promouvoir l'économie numérique.
Oui.
Déjà, nos voisins, par exemple, les Rwandais, trop avancés.
Oui.
Ils ont toute une politique autour du numérique, autour des start-up. Il y a une cité de l'innovation, par-ci, par-là. Ici, encore rien qui bouge. On a encore ce modèle de PME qui n'est pas mauvais. Mais pour que notre économie aujourd'hui fasse une croissance exponentielle, il faut absolument qu'on se tourne vers les start-up. Parce que si on arrive sur les 1000 start-up, à faire partie 2 ou 3, ça peut arriver à des millions de dollars et embaucher autant de personnes dans les pays.
Vous avez suivi Platini qui a parlé du MPSA, mais c'est un service, ça, il ne faut pas prendre ça comme une entreprise du numérique.
C'est une entreprise
du numérique également.
Exactement,
ici.
C'est le numérique.
Oui.
Même les télécoms sont
oui.
dans les numériques.
Oui.
Et les entreprises numériques, il ne faut pas juste s'écarter de ces géants des télécommunications.
Ah, d'accord.
Vous pouvez aussi avoir une start-up qui fournit les services à ces géants.
Oui.
Et nous sommes censés travailler avec eux. Ils sont des partenaires de l'écosystème. Donc, nous sommes censés travailler avec M-Pesa parce que nous avons un projet. Peut-être qu'on va développer avec tous ces télécoms où on peut intégrer des paiements mobiles et tout ça. Et c'est l'entrepreneuriat du numérique qui doit même booster la croissance de ces entreprises du numérique, même des banques et tout ça. Ça peut impacter tout l'écosystème dans un pays. C'est très important de soutenir l'entrepreneuriat numérique. Il faut que tout le monde s'y investisse et qu'on laisse le temps aussi aux entrepreneurs. J'ai quelqu'un parlé de... Il y a beaucoup, tout le monde veut... Exactement. Aujourd'hui, on a besoin de maximum d'entrepreneurs. On n'est même pas à l'étape de dire non, il y en a assez. On n'en a même pas encore assez. Il faut que ça devienne vraiment un peu polluant pour que si on a autant, on a tellement beaucoup d'idées, beaucoup d'entreprises qui se lancent, et on peut trouver parce que les taux de réussite est trop faible dans ce secteur. Et donc, c'est peut-être 10% des start-up seulement qui se lancent, qui existent déjà après une année ou deux ans. Et après, les statistiques ne sont pas toujours aussi faciles. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au départ, si vous vous lancez, il faut être sûr que vous voulez être entrepreneur.
Oui. Et il faut être patient, il faut être persévérant. Alors, s'il faut revenir à votre application, à School App, vous avez dit une start-up d'EduTech, c'est-à-dire qui est sur l'éducation, pour des personnes qui sont intéressées et qui veulent s'informer par rapport à cette application, par rapport à tout ce qu'il y a comme gestion des informations liées à l'éducation, c'est comment ça se passe?
Oui, nous sommes ici à Sosimat, dans la concession Prokoki, Ingenieur City. Et donc, notre plateforme est simple, schoolab.com, en ligne, et vous pouvez nous contacter directement en ligne, et puis, nous offrons des services aux écoles, mais pas surtout aux écoles seulement,
oui,
mais à tous les systèmes éducatifs. Parce qu'avec Schoolab, les ministères peuvent se retrouver, si on travaille avec eux, les bureaux qui gèrent les écoles dans la province, les groupements d'écoles, si une école a 10 écoles, plutôt un groupement a 10 ou 15 écoles, autant d'écoles, il peut gérer ses écoles directement dans Schoolab. Chaque école peut gérer ses élèves, les frais scolaires, les parents peuvent interagir avec l'école, peuvent accéder à distance. Tout ce qui est service lié au système éducatif, oui, l'accès aux leçons, le contenu éducatif, parce que le plus grand problème que nous avons identifié, c'est le problème de qualité de l'éducation dans les zones rurales.
Oui.
C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déjà 65 000 élèves, environ 800 écoles,
oui,
dans la province du Kwilu. Parce que là, il y a un problème du contenu éducatif. Alors nous avons dit, comment nous pouvons aider ces écoles de province à avoir accès au manuel? Il n'y a plus de bibliothèque.
Oui.
Vous allez dans nos provinces, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a rien.
Même dit, dans beaucoup d'écoles ici à Kinshasa, il n'y a, voilà, a pas de bibliothèque.
Il n'y en a pas. Oui. Nous avons dit, maintenant, est-ce qu'on doit rester le bras croisé ou bien on peut trouver une solution à travers,
oui,
l'Internet, que les enseignants arrivent à accéder au contenu de qualité. Nous avons monté une unité pédagogique avec les enseignants de quelques écoles catholiques. Nous avons formé cette unité qui conçoit des leçons suivant les programmes scolaires et qui met ces leçons en ligne. Et les autres enseignants, là où nous avons des centres d'accès à ces contenus. En province, nous sommes à Idiofa, Guikwite, Massimanima, tout ça. Ils viennent dans des centres pour préparer leurs leçons.
Mais quand vous parlez de votre cas, Kadi Pascal, c'est comme si vous, pour créer votre entreprise du numérique, vous avez donné l'impression que tout a été facile, vous n'avez pas eu de grosses difficultés, alors que vous avez dit au départ, il faut repérer un modèle, mais puis pour arriver à mettre tout cela en place, c'est quand même compliqué. Vous avez connu vous-même aussi toutes ces difficultés-là.
Oui, les modèles, c'est construit. Quand, oui, on est une start-up, le modèle ne s'arrête pas de se construire. Oui. C'est ça, oui, la différence. Donc, vous continuez à changer, à modifier, à perfectionner votre modèle. Mais j'ai connu beaucoup de difficultés. Il y a des années très compliquées. Il fallait aller parfois en province et ça échoue. Vous lancez ceci, ça échoue. Et vous connaissez des difficultés incroyables. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui partent de votre équipe. Et parce que c'est pas facile de patienter. Mais moi, en fait, ce qui compte pour moi, comme il y a un géant qui l'a dit de la tech au monde, ce que nous manquons, en fait, c'est pas l'argent qui manque. Ce sont les personnes avec des idées ou de la vision qui sont prêts à mourir pour cette vision. C'est ce qui nous manque ici au Congo maintenant. Il faut qu'on arrive à encourager la vision à long terme. Parce que si tous nous nous contentons à être salariés, à être bien, pour une vie normale, je crois qu'il y aura toujours des problèmes d'emploi, il y aura toujours des problèmes sociaux qui vont exister. Chez les autres, les gens maintenant travaillent pour que dans 10 ans ça réussisse. Et nous, nous pensons que nous pouvons sacrifier aussi notre confort personnel pour essayer d'atteindre un niveau beaucoup plus intéressant dans 5 ans, dans 10 ans, et pourquoi pas être un modèle plus tard pour la génération future.
Donc comme tout, dans tout projet, il faut y croire, et puis vous y avez cru, et puis voilà, vous continuez à tenir. On va prendre notre auditeur en ligne qui nous appelle de Bandundouville, Malonga. Vous nous appelez de Bandundouville, bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel, et bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Bonjour.
On vous écoute Malonga. Malonga, vous êtes en ligne, on vous écoute. Quelle est votre question par rapport à ces sujets? Comment créer son entreprise du numérique? Apparemment, Malonga n'est plus en ligne. On espère qu'on... Malonga, vous êtes toujours en ligne? Non, il n'est plus en ligne. On va le retrouver. Alors, on poursuit avec notre invité Canik Pascal, responsable de Schoolab, Utatop, d'Edutech. Alors, vous avez dit que vous avez connu des difficultés au départ, mais vous avez tenu. Alors maintenant, qu'est-ce que vous donne comme l'impression que ça semble marcher?
Les difficultés, pas au départ, mais on a toujours des difficultés tous les jours.
Tous les jours, voilà.
Et c'est notre quotidien maintenant. Oui. Est-ce que cette foi inébranlable à votre vision?
Oui.
J'ai clairement à l'esprit ce que je vais voir dans 10 ans. Clairement à l'esprit.
Oui.
Donc, ce qui compte, ce n'est pas le parcours qui va être tortué, mais c'est là où je vais arriver. Ça demande du temps et on ne peut pas créer quelque chose dans 2 ans, 3 ans. Je suis conscient de cela. Donc, je vais mettre du temps, ça va prendre du temps que ça va prendre. Je sais exactement ce que je vais voir dans 10 ans. Ça demande un processus long, compliqué, douloureux parfois. Et donc, je me suis préparé par rapport à ça. C'est ça le problème, la préparation mentale. C'est la clé de tout. Donc vous devez être vraiment inébranlable, même si on arrive à vous casser les bras, vous devez être prêt à avancer. Donc c'est ça le plus important. C'est parce que si on se lance juste parce qu'on veut gagner un peu d'argent, déjà si c'était pour l'argent, je ne me serais pas lancé. J'étais bien dans mon emploi, j'étais bien traité, mes chefs m'aimaient beaucoup, je travaillais bien. J'étais... Donc c'est pas pour l'argent, c'est pas pour des bénéfices à court terme. Je vois vraiment les longs termes. Et c'est pour des raisons aussi sociales. Parce que j'avais voyagé en province, j'étais frustré de voir qu'il y avait un gap important entre l'enseignement qui se donne dans certaines écoles ici,
oui,
et ce que nos écoles en province avaient comme qualité du contenu éducatif. Donc c'est ces problèmes-là aussi. Je me suis dit, mais nous tous, on est coupables. Si on doit rester dans nos bureaux climatisés et que ici, là où nous avons grandi, nous avons étudié, tout est en train de se détruire. Je crois qu'on sera tous jugés. Donc c'est ça, c'est cette foi à ce que nous voulons servir, à ce que nous voulons rendre comme service dans notre société, à notre société, qui fait qu'on ne puisse pas s'arrêter. Et mais ça, les gens peuvent le comprendre ou pas, il faut avancer.
Mais un petit exemple, qu'est-ce qu'à un moment a failli à vous amener au découragement, lorsque le projet, à chaque fois que le projet a avancé, qu'est-ce qu'à un moment vous dites, mais est-ce que j'y arriverai? À un moment, vous avez douté de vous ou jamais?
Si, les doutes, c'est tous les jours. Et le courage, c'est cette force d'affronter vos doutes tous les jours, parce que même les géants de la tech aujourd'hui, ils ont toujours eu des moments de doute. Donc, il est arrivé pour vous de faire un projet, de faire tout le business model, business plan, de vous lancer et de lancer le produit et de trouver des incompréhensions sur les marchés. Et tout s'arrête. Vous vous sentez, vous avez perdu l'argent, vous avez perdu du temps et vous perdez même l'équipe. Donc ça vous fait, ça peut vous fondre, ça peut vraiment vous amener à dire non, j'abandonne. Mais quand vous, même si vous restez à un moment donné seul et que vous croyez toujours, il y a une lueur d'espoir quelque part, il faut avancer, il faut persévérer, il faut encore se relever, mais toujours il faut savoir aussi faire du recul, prendre du recul.
Oui.
Donc vous dites, maintenant je suis allé, ça bloqué, qu'est-ce que je peux faire? Ok, quelle direction je peux trouver? Si je peux reculer, est-ce que je peux prendre une autre direction, je peux aller à gauche pour revenir sur la trajectoire? C'est tout ça qui compte. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une science exacte où vous connaissez les chemins, vous allez suivre ces chemins. Le chemin est là, mais pour arriver au bout du chemin, vous devez prendre parfois faire des détours. Vous devez faire parfois des détours incroyables pour arriver juste devant vous. Et c'est ça aussi, c'est savoir s'adapter à chaque réalité, à chaque obstacle, savoir les surmonter. Et s'attendre déjà aux obstacles, c'est inévitable. Aucun entrepreneur n'a réussi sans passer par plusieurs échecs.
Alors, s'il faut récapituler, Canik Pascal, pour créer une entreprise numérique, un start-up, quand vous dites, il faut d'abord identifier les modèles économiques, hein, où vous pensez lancer votre projet. Et aussitôt que vous avez trouvé ce modèle, il faut commencer par quoi? Commencer à imaginer comment on peut développer ce modèle économique, aller se faire coacher ou bien... Il faut voir qui. Voilà.
Comme j'ai dit, le plus grand problème ou le point le plus important, c'est d'identifier un problème.
Oui.
Le modèle économique est aussi très compliqué à monter. Oui. Il faut des experts aussi, des conseils. D'abord, les problèmes, la taille du problème, oui. mais aussi les besoins. Tout problème n'est pas un problème d'entreprise. Il oui. peut être une entreprise, en fait, une idée d'entreprise. Il faut un problème, et derrière ce problème, il faut ressentir un besoin des futurs clients ou des futurs utilisateurs. Et quand vous arrivez à identifier, commencez à monter votre solution. D'abord, trouvez la solution.
D'abord, vous-même d'abord.
Vous-même, vous-même sans même d'abord. Aller plus loin, modèle économique ou quoi, oui, sinon oui. ça devient compliqué déjà.
Oui.
Cherchez la solution, montez cette solution, mettez en place la structure ou la plateforme. Et dès que c'est fait, maintenant, tentez de proposer à quelques clients. Est-ce que vous avez besoin de ça? Oui, nous avons besoin. Ok. Vous avez besoin? Oui, nous avons. Ok. Maintenant, vous pouvez voir un expert, vous pouvez aller dans une incubation. On vous aide maintenant à structurer votre idée et à mettre en place, et à planifier votre croissance ou votre développement. Et à ce moment, vous aurez des business models, business plans, vous aurez tout ça. Et après, vous pouvez passer à l'étape des. De, comme on appelle, des levées de fonds.
Oui.
Chercher des financements. Ce n'est qu'après avoir beaucoup travaillé que vous pouvez arriver à lever des fonds. Et ça, c'est un processus beaucoup plus compliqué que tout. Ça vous prend du temps, ça vous demande de travailler, de vous épuiser même. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, j'insiste, que c'est un processus très compliqué, l'entrepreneuriat.
Et vous avez insisté, il faut y croire, il faut être persévérant et faire face à tous les obstacles.
Oui, et la patience, c'est très et surtout très important.
Voilà, on va s'arrêter par là. On vous dit merci à Kany Pascal, responsable de SchoolUp, une start-up d'EduTech qui est dans l'éducation. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de comment créer son entreprise en ligne. Vous avez préféré qu'on parle de l'entreprise du numérique.
Ouais.
Voilà, merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, merci Marcel. Merci.